Docteur Ted Rildebrandt, OT Histoire, Lit.
Et théologie, conférence 1. Symbole copyright 2020, Docteur Ted Rildebrandt. À introduction au cours entre minuit et 3h29. Cours, commençons. L'horloge ici est en retard d'environ 5 minutes, nous devrons donc nous en souvenir au moment de quitter. Mais maintenant, nous allons commencer. Il s'agit du cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament, et bienvenue à vous tous dans cette salle. L'autre classe l'a préalablement chauffée et réchauffée pour vous. Donnons à ces gens des programmes. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'un cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament et vous êtes donc dans la bonne classe. Nous le serons, dans ce cours. Croyez-le ou non, après le premier jour, vous direz que c'est fou, mais nous enregistrerons tout ce cours sur vidéo. Ce que j'espère faire, c'est rendre les cassettes disponibles en ligne. Vous devrez me donner le week-end pour travailler sur le rendu et le montage de la vidéo. Je vais essayer de les lever tous les lundis. Kyle Lincoln sera notre TA pour le cours et il sera notre expert en cassettes vidéo là-bas. Il animera également des séances de révision pour cette classe. À l'approche des examens, il y aura des séances de révision. Kyle s'en chargera. C'est donc le gars que vous devez connaître. Commençons par un mot de prière, puis nous passerons à une introduction au cours. Très bien, commençons. Père, nous te remercions beaucoup pour ta parole. Nous vous remercions d'avoir exprimé votre amour, votre colère et vos attentes envers l'humanité au cours des milliers d'années représentées dans l'Ancien Testament. Merci de nous permettre, dans ce cours, de voir vos différentes relations avec les gens depuis tant de siècles, et avec tant de types de personnes différents. Père, nous sommes des types de personnes très différents, nous cherchons à te connaître, nous cherchons à t'aimer et nous cherchons à t'adorer. Nous prions pour que ce cours puisse mener à ses fins, afin que nous puissions vous honorer et vous glorifier, ce qui est la fin principale de l'homme. Nous vous remercions de votre présence ici parmi nous. Au nom du Christ, Amen. C'est l'Ancien Testament. Je pense que j'aimerais commencer par passer en revue le programme. Nous allons essayer de nous faire une idée du terrain, et d'ailleurs, ce n'est pas grave de ne pas tout attraper pendant cette première heure de cours, cela viendra avec le temps. Nous commençons tout juste le semestre. Alors passons en revue cela. Vous voyez mon nom, je suis le docteur Ted Rildebrandt. Je m'appelle Rildebrandt ou Ted, mais ne m'appelle pas Teddy. S'adressant à l'étudiant, oui, madame. Vous avez besoin d'un programme. D'accord. Mes coordonnées sont là, je fais beaucoup d'emailing. Je suis désolé, je fais du vieux courrier électronique, je ne fais pas Facebook. Il existe un vieux système qu'il appelle le courrier électronique, savez-vous comment utiliser ce système? Si vous ne le faites pas, nous pouvons travailler avec cet et ils peuvent vous aider à le faire. Je me rends compte que c'est un système obsolète mais c'est ce que j'utilise toujours. Désolé, je me moque de moi à ce stade. Je suis au Frost 304, Frost au troisième étage, il y a un groupe de profs là-haut. Mon numéro de téléphone est le 4412 et mon email est là. Mes horaires, j'y suis la plupart du temps, j'arrive généralement vers 8h30 ou 9h, donc j'arrive généralement de 8h30 ou 9h jusqu'à midi. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez venir parler de quelque chose, n'hésitez pas à venir. Je suis généralement à 20h30. Je suis généralement là la plupart du temps. B. Lecture du programme entre 3h30 et 3h58. Faisons donc la description du cours, il s'agit d'un cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament. Il examine l'Ancien Testament du point de vue de son histoire. L'histoire va être vraiment importante dans l'Ancien Testament parce que Dieu va faire ces choses incroyables au cours de l'histoire. En d'autres termes, ce livre n'est pas seulement des mythes et des légendes, ces événements se sont réellement produits dans l'histoire. Il relate donc pour nous les actes puissants de Dieu dans l'histoire. C'est l'importance de la culture dans le processus de révélation et d'interprétation entre 3h59 et 7h38. Nous enseignerons cela dans un contexte culturel. En d'autres termes, ce livre, la Bible, nous vient d'une culture très différente de celle à laquelle vous êtes habitué au XXIe siècle. Moïse a écrit en 1400 avant J.C., Abraham a vécu en 2000 avant J.C., c'est-à-dire il y a 3000 à 4000 ans. La culture était donc très, très différente. La culture fait-elle une différence lorsque l'on essaie de comprendre quelqu'un? La culture fait-elle une grande différence? Oui. Nous devons donc prendre conscience de l'impact culturel de cela. La Bible sera écrite en langue hébraïque. J'ose dire qu'il y a très peu de gens, même si j'avais un camarade juif dans le dernier cours, qui sait parler un peu d'hébreu. Il est écrit en hébreu, et la langue affecte-t-elle la façon dont les choses sont communiquées? Parfois, différents types de choses peuvent être communiquées par la langue, et la langue elle-même est donc très importante. À propos, le peuple hébreu lit à l'envers. Ils lisent, de droite à gauche, nous lisons dans l'autre sens. Maintenant, avez-vous remarqué que j'ai dit, à l'envers, voyez-vous ce que je viens de faire? Est-ce une chose culturelle? Dirait-il que nous lisons à l'envers? Ce que je dis, c'est que le langage est différent. Quand Dieu vient dans l'Ancien Testament et nous donne de la poésie qu'il nous donne est-elle une bonne poésie américaine? Non. Savez-vous que la poésie hébraïque n'utilise pas de rime ni de maître? La rime et le maître sont tellement ancrés dans la langue anglaise qu'ils ne sont même pas utilisés par les Hébreux, ils ne font pas de poésie comme ça. Ils font rimer des pensées en utilisant le parallélisme. C'est donc une toute autre façon de faire de la poésie. Au fait, Dieu s'est-il adapté à cette culture? Dieu s'adapte-t-il à la culture? C'est une question plus vaste. Où est-ce que Dieu descend et dit, et, c'est qui je suis? Faites-le à ma manière, sinon c'est l'autoroute. Dieu s'adapte-t-il? Quand Dieu descend pour écrire de la poésie, écrit-il de la poésie hébraïque? Oui, il le fait. Il s'adapte donc à leur langue et à leur culture et cela affecte beaucoup de choses dans la façon dont il va communiquer. Avez-vous déjà essayé de communiquer dans une autre culture? Je ne parle pas d'eux, j'étais à New York et nous sommes devenus interculturels. Non. Je parle, avez-vous déjà vécu dans une culture différente où tout le monde autour de vous appartient à cette autre culture? Est-ce que cela affecte votre façon de communiquer? Tout est différent. C'est une expérience intéressante. J'espère que vous aurez l'occasion de le faire au Gordon College. Dans un certain sens, vous ferez cela ici parce que nous allons parcourir l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament va nous ramener 3000 ans en arrière. La culture exerce donc une influence importante sur la manière dont Dieu s'exprime et sur la façon dont les gens comprennent ce qu'ils entendent. Au fait, votre culture affecte-t-elle la façon dont vous entendez ce livre? Êtes-vous enfermé dans votre culture du XXIe siècle? Vos écoles vous ont-elles préparé, formé et réellement informatisé? Vous êtes américain et vous avez reçu une certaine formation. Lorsque vous lisez le contenu de l'Ancien Testament, allez-vous être choqué? Vous allez être choqué parce que les choses sont tellement différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Nous avons nos points de vue en Amérique que nous sommes si habitués à entendre. Nous sommes fiers de la diversité, n'est-ce pas? Je ris juste parce que je ne pense pas. Nous sommes divers dans le cadre étroit de ce petit cercle PC politiquement correct. Mais que se passe-t-il ici, lorsque vous entrez dans la Bible, il n'y a pas de consensus PC. C'est juste la vie brute telle qu'elle arrive avec tous ses hauts et ses bas. Vous devez lutter avec ça. Alors je vais vous mettre ça en face et vous regarder vous tortiller, et une partie de ce contenu va être choquante. Cela me choque encore parfois. La culture est donc une chose importante. Des importances de la géographie dans la lecture de textes entre 7h39 et 10h51. La géographie est une autre chose très importante. J'ai vécu en Israël après la guerre civile pendant un an. Ma femme et moi vivions en Israël et j'ai donc appris à connaître les lieux, pourquoi? J'ai parcouru ces endroits. Quand il est question d'aller du mont des Oliviers et de revenir dans la zone du temple et de Jésus chevauchant un âne, j'ai parcouru cette route. Je ne veux pas vous dire combien de fois, mais probablement des centaines de fois. J'ai gravi le mont des Oliviers. Je l'ai même escaladé une fois dans 8 pouces de neige juste pour prendre une photo. Ce que je dis, quand vous connaissez un endroit, ce serait comme dire que Jésus est allé à Denver et est allé au centre commercial. Maintenant, question, savez-vous où se trouve Denver? Savez-vous où se trouve le centre commercial? Quand il dit cela, vous savez exactement où il se trouve et vous comprenez ce qui se passe. Au fait, la géographie affecte-t-elle les choses? Permettez-moi de le dire de cette façon, combien d'entre vous viennent du Massachusetts? La géographie affecte-t-elle les choses? Combien d'entre vous viennent du New Hampshire? Question, vous les gens du New Hampshire, la géographie affecte-t-elle les choses? Le New Hampshire est-il différent du Massachusetts? Vous dites, merci au Seigneur. Le Massachusetts est différent du New Hampshire. Si vous allez dans le New Hampshire, ils vous le diront. Au fait, est-ce que quelqu'un vient du Maine? Le Maine est-il différent des deux autres? Je viens, en fait, la vérité est que je ne sais plus d'où je viens. J'étais originaire de la région de Niagara Falls, dans l'état de New York, et j'ai vécu en Israël et au Tennessee. J'ai vécu au Tennessee pendant un certain temps. Ma femme a dit, je n'élève pas mes enfants pour qu'ils parlent comme ça. J'ai plutôt aimé ça moi-même, mais elle ne l'a pas fait. Elle étudie l'anglais, alors elle m'a appris à parler correctement, Lee. Mais ce que je demande, c'est si la géographie est importante. Permettez-moi juste de donner un exemple. Si vous venez du Tennessee, grandissez-vous dans un monde différent au Tennessee et dans le Massachusetts, sérieusement? Y a-t-il une différence entre les collines du Tennessee, sont-ils très différents de ce que vous obtiendriez dans le Massachusetts? Oui. Cette géographie affecte-t-elle la vision du monde d'une personne? S'ils viennent du Midwest, par exemple, ou s'ils viennent du Texas, ou s'ils viennent de l'Alabama. La géographie affecte-t-elle les choses? Nous allons apprendre à lire la géographie presque comme une langue. Vous apprenez à lire la géographie comme une langue, en termes de type de choses qui y sont reflétées. La ville de New York est-elle différente de la Virginie? Dans un contexte urbain, allez-vous avoir une sorte de vision du monde et allez-vous avoir une façon très différente d'être en Virginie occidentale? Parlez-moi de la Galilée contre Jérusalem. La Galilée est l'endroit où vivait une bande de voyous. Donc Jésus est de là. Alors, quand il descend dans la ville de Jérusalem, les choses changent. Vous devez apprendre à lire la géographie et comment cela affecte les choses. Le contexte littéraire entre 10h52 et 13h55. Milieu littéraire, la Bible utilise des formes littéraires, Dieu utilise les formes littéraires de cette époque. Nous allons donc aborder des choses comme le livre du Deutéronome. Tout d'un coup, vous allez lire le livre du Deutéronome et vous allez dire, « Sainte vache, regarde ça !» C'est presque exactement comme un formulaire de traité hittite. Les hittites avaient leurs traités et le livre du Deutéronome correspond presque à un « T » à cette forme littéraire. Dieu a-t-il utilisé le traité hittite pour structurer tout le livre du Deutéronome? Très probable. Autrement dit, y a-t-il des facteurs littéraires? Dieu écrit de la poésie hébraïque comme il le fait dans les psaumes. Nous apprendrons des psaumes comme « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais vous remarquerez qu'ils n'utilisent pas de rimes et de maîtres comme nous le faisons en anglais, ils font du parallélisme et du parallélisme de pensée. C'est une toute autre façon de faire de la poésie. Je l'aime, c'est en fait mon domaine d'expertise en matière de poésie hébraïque. C'est beau. Il existe donc des conventions littéraires que même Dieu observera. L'un d'eux sera la langue hébraïque. Il descendra et parlera en hébreu. En fait, laissez-moi vous harceler dès le départ, le nom d'Adam était-il vraiment, Adam? Réponse de l'élève: eh bien, Adam, signifie, homme, en hébreu. Question, Adam et Ève parlaient-ils l'hébreu? Je veux que vous y réfléchissiez juste une seconde. Adam et Ève parlaient-ils l'hébreu? Le nom d'Adam est, homme, le nom d'Ève est Ava. Vous connaissez Ava parce que vous dites, la rime. Est-ce que quelqu'un dit ça? Très bien, l'Aem est un toast juif qui signifie, à la vie. Ava est son nom, tu l'appelles Ève. Le nom de Ava est construit sur, la vie. Les noms d'Adam et Ève signifient quelque chose en hébreu. Question, Adam pourrait-il parler hébreu? La réponse est, je vais vous le dire sans détour, il ne pouvait pas parler hébreu, et son nom n'était pas vraiment Adam, car, franchement, la langue hébraïque n'existait pas avant 1800 avant J.C. Si la langue hébraïque n'existait pas, comment pourrait-on donner à cet homme un nom hébreu? Ensuite, vous dites, oh, toute la Bible est éteinte, Adam et Ève viennent de disparaître. Mais ce que je veux dire, c'est que, Adam et Ève sont probablement des traductions de leurs noms originaux. Ont-ils traduit des noms entre les cultures? Excusez-moi, certains d'entre vous dans cette classe, votre nom est-il une traduction de votre culture dans notre culture? Oui. Alors, est-ce quelque chose de menaçant? La réponse est non. Ils ont des noms, et son nom était qui sait ce que c'était, mais quand ils l'ont traduit en hébreu, Dieu dit qu'ils doivent comprendre, son nom signifiait à l'origine, homme, et donc ils l'ont simplement appelé, Adam. Au fait, est-ce qu'on le traduit de l'hébreu vers l'anglais? En ce qui concerne l'anglais, y a-t-il des problèmes pour passer de l'hébreu à l'anglais? Oui, il y en a. Donc tout ce que je dis, c'est qu'il faut s'occuper de la langue hébraïque, et nous y réfléchirons. La langue est importante. Nous allons donc nous intéresser au milieu littéraire. F. Contexte historique entre 13h56 et 14h09. Contexte historique ancien du Proche-Orient, ils ont déterré tous ces artefacts archéologiques et nous remarquerons l'archéologie et ce qu'elle a fait pour nous aider à comprendre la Bible. L'archéologie, l'histoire comparée, la littérature, les thèmes théologiques et diverses choses nous aideront à mieux comprendre l'Ancien Testament. J'ai introduction à l'Ancien Testament entre 14h10 et 15h58. Culture occidentale, j'explorerai cela également pour l'application de ces textes comme fondement de la spiritualité. Je le ferai, dans ce cours, et cela dérangera certaines personnes, mais je vais vous apprendre les choses lourdes pour essayer de vous faire comprendre l'Ancien Testament. Vous apprendrez le contenu d'une grande partie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est-il trop volumineux pour que vous puissiez le faire en un semestre? Sérieusement, le Nouveau Testament fait un tiers de la taille de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est énorme. Nous en couvrirons donc une partie, je préfère en faire une partie bien plus tôt que de m'y lancer. Nous ferons essentiellement la section historique. Le problème avec l'histoire est le suivant, si je peux vous intéresser à l'histoire, et je ferai de mon mieux pour vous intéresser à l'histoire, si l'histoire de l'Ancien Testament est intéressante, parlez-moi des prophètes. Sont-ils vraiment intéressants? Et la poésie est-elle vraiment belle? Nous consacrerons donc beaucoup de temps à l'histoire et l'histoire servira de base à la poésie et aux prophètes. Vient ensuite la spiritualité personnelle. Mon objectif pour ce cours est de vous faire aimer l'Ancien Testament. Quand vous aurez terminé, j'espère fondamentalement que vous aimerez Dieu et que vous aimerez sa parole. Afin de mener cette approche de spiritualité personnelle, je raconte beaucoup d'histoires personnelles. Certains élèves aiment les histoires personnelles parce que cela rend le cours plus amusant et ils voient à quel point je suis schizophrène. Mais je le fais exprès, la raison est que je veux que vous voyiez comme modèle quelqu'un qui prend la parole de Dieu, l'Ancien Testament, et qui montre le lien avec la vie du 21e siècle. Je vais tenter de faire le lien avec quelque chose qui a 3000 ans et le XXIe siècle. Je veux que vous voyiez comment cela se passe dans la vie d'un individu. Je veux que vous voyiez des histoires qui l'illustreront d'un point de vue très personnel. Je veux donc que vous réfléchissiez à cela et à la façon dont nous pensons à Dieu à un niveau personnel. Ai-je connaître le Dieu de l'Ancien Testament entre 15h59 et 20h11? Ce que j'aime dans l'Ancien Testament, c'est ceci, je dois faire attention à mes illustrations maintenant, supposons qu'un jeune homme sort avec une jeune femme et qu'il ne connaît cette jeune femme que dans un contexte professionnel. Supposons qu'ils travaillent ensemble chez McDonald's. Ils travaillent tous les deux chez McDonald's et se voient beaucoup uniquement chez McDonald's. Question, lorsqu'il ne la voit que dans un seul contexte, la connaît-il vraiment? Comment fait-on pour connaître une personne? Apprenez-vous à connaître une personne en la voyant dans de nombreux contextes différents. Les voir stressés, les voir avec leurs parents, est-ce assez important? les voir avec leurs parents, les voir avec leurs frères et sœurs, les voir avec leurs nièces, les voir avec leurs professeurs, leurs figures d'autorité, les voir au travail, les voir en dehors du travail. Comment font-ils la fête? Lorsque vous voyez quelqu'un dans une centaine de situations différentes, vous apprenez à connaître cette personne. Nous allons voir Dieu sur une période d'environ 1500 ans. Dieu, dans l'Ancien Testament, va s'occuper de centaines et de centaines de personnes, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les 12 frères, Moïse, Aaron, Myriam, etc. Nous allons voir Dieu interagir avec des centaines de personnes. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que Dieu est très différent de ce que vous avez pu penser en grandissant. Je pense donc que nous tous, y compris le professeur, avons ce que j'appelle des « idoles de l'esprit », en d'autres termes, de fausses façons de conceptualiser Dieu. Pour devenir chrétien, il faut notamment voir votre vision de Dieu détruite. Pas détruit dans l'athéisme, mais détruit dans l'adoration de Dieu pour qui il est vraiment. Je me demande, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais juste mettre carte sur table. J'espère vous préparer à vous émerveiller devant le mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de cool dans l'émerveillement? Permettez-moi juste de m'utiliser comme exemple. Alors je vais à la bibliothèque, mon frère j'étais un peu lent quand j'étais à l'université m'a installé avec ma femme essentiellement dans la bibliothèque. Il essayait de lui vendre de la drogue no dose. Elle ne voulait pas prendre les médicaments. Alors il rentre chez moi, et je ne l'oublierai jamais, il entre dans la maison et dit, « Ted, maintenant tu vois, j'étais son frère aîné et j'étais plutôt « hétéro », ce qui signifiait « bizarre » à l'époque. Ces jours-ci, il faisait toutes sortes de choses vraiment mauvaises, et il a essayé de lui en faire subir certaines, mais elle ne l'a pas accepté. Alors il rentre à la maison et dit, « Ted, tu dois rencontrer cette fille. Elle est aussi bizarre que toi. Tu dois rencontrer cette fille. » Alors, je suis allé à la bibliothèque, je l'ai rencontré dans la bibliothèque et je lui ai demandé de sortir avec le « Messie » de Handel, qu'elle voulait voir. Alors nous sommes sortis. Question, est-ce que je connais ma femme, ça fait 36 ans maintenant. Y a-t-il encore des choses sur ma femme que je ne comprends toujours pas après 36 ans? Je veux vous dire, vous savez ce qu'est l'émerveillement lorsque vous êtes fasciné par une autre personne et que vous voulez la connaître vraiment intimement. Y a-t-il toutes sortes de choses qui surviennent dans toutes sortes de contextes différents avec nos enfants? Il soulève ces questions et elle part sur une chose et moi sur exactement le contraire. Ensuite, nous devons nous ressaisir parce que les enfants nous montent les uns contre les autres. C'est le jeu du bon flic et du méchant flic. Dans le processus, nous devons traiter les uns avec les autres. Alors ce que je veux vous dire, ce que je veux faire, c'est créer envers Dieu cette notion du mystère de quelqu'un que vous aimez, et ainsi vous voulez explorer qui il est. Dieu nous a envoyé une lettre d'amour dans sa parole, sa Bible. Lorsque vous tenez vraiment à quelqu'un, remarquez-vous de petites choses à son sujet. Ce que je dis, c'est que la Bible va nous dire beaucoup de choses sur Dieu et je veux que vous deveniez fasciné et amoureux de cela. Dieu devient l'objet de votre amour, l'objet de votre émerveillement, votre mystère, et vous vous laissez prendre par cela. Désolé de m'avancer là-dessus mais c'est l'un des principaux objectifs du cours, connaître Dieu. Et autres objectifs du cours entre 20h12 et 20h44. Objectif du cours, connaître le contenu de base de l'Ancien Testament. Les gens connaissent le Nouveau Testament, Jésus marche sur l'eau, les gens connaissent beaucoup le Nouveau Testament. Beaucoup de gens de l'Ancien Testament ne le savent pas. Une fois qu'on sort de Genèse et qu'on arrive à Lévitique, c'est fini. Donc la Genèse est bonne, tout le monde connaît Adam et Ève, Noé et le déluge, et ce genre de choses. Donc Genèse est un bon moyen de s'introduire, mais une fois sortis de là, nous allons nager. Nous allons donc apprendre le contenu de l'Ancien Testament. Je suis passionné par l'apprentissage de contenu. J'y transmission et traduction de la Bible entre 20h45 et 22h59. Comment la Bible nous est-elle parvenue? Quelle est son origine et sa transmission? Je brandis cette Bible, j'utilise une NIV maintenant. Comment cette NIV a-t-elle vu le jour? Dieu a-t-il écrit la NIV? Non, vous savez qui a écrit la NIV. Marv Wilson. C'était censé être une blague, apparemment, ça ne s'est pas très bien passé. La vérité honnête est qu'il était l'un des traducteurs de la NIV. Maintenant, je ne pense pas qu'il en fasse la publicité. Question, est-il possible que Marv Wilson fasse une erreur? Vous ne connaissez pas Marv Wilson? Non. Vous avez donc la garantie que certains livres sont corrects. Mais une chose que nous devons faire dès le départ, c'est que je vois que certains d'entre vous deviennent vraiment sérieux avec moi, comprenez-vous le sarcasme? Laissez-moi vous expliquer le sarcasme. C'est très important et il est très important que ce soit dit sur bande. Quand je dis quelque chose de sarcastique, cela veut dire que je voulais dire exactement le contraire de ce que je viens de dire. Si vous le prenez pour ce que je viens de dire, nous allons totalement nous manquer. Donc ce que je viens de dire, le docteur Wilson est l'un des hommes les plus formidables que j'ai jamais rencontrés dans ma vie, c'est la vérité. Maintenant, la vérité est qu'il fait des erreurs. Comme tous les humains, il fait des erreurs. Maintenant, il gagne beaucoup moins que moi, mais c'est une véritable personne. Vous lirez d'ailleurs son livre, Notre Père Abraham. C'est un classique ici chez Gordon. Nous en parlerons dans une minute. Ce que j'essaie de dire, c'est comment la Bible nous est-elle parvenue? Comment le docteur Wilson l'a-t-il obtenue? Eh bien, dites-vous, il l'a traduit de l'hébreu, parce qu'il connaît si bien l'hébreu. C'est vrai. D'où vient-il le texte hébreu? Eh bien, le texte hébreu vient de 1000 après J.C. Mais d'où ces gens de 1000 ans après J.C. l'ont-ils obtenu? Cela est venu de Moïse jusqu'à nous. A-t-il dû être copié encore et encore? Quand les gens l'ont copié, ont-ils parfois commis des erreurs? Quand les gens l'ont traduit, de l'hébreu vers le grec, puis du grec vers la Vulgate latine, ont-ils parfois commis des erreurs? Lorsqu'il s'agit de l'anglais, les différentes traductions sont-elles en désaccord les unes avec les autres? Lequel choisissez-vous? Alors, comment est née la Bible à l'époque, et comment nous parvient-elle aujourd'hui? Nous voulons retracer cela et être honnêtes dans nos efforts à cet égard. K-Manuel 23H0025H22. Il y a donc tout un tas de choses ici en ce qui concerne les objectifs et je ne veux pas insister sur ce point. Passons donc au manuel de la page 2 ici. Passez à vos manuels. Dans ce cours, il y a essentiellement une, et non deux, choses que vous devez acheter. Une chose que vous devriez avoir est une Bible. Quelles traductions dépendent de vous? La plupart d'entre vous utilisent la VNI. Combien d'entre vous utilisent la VNI? Vous êtes nombreux à utiliser la VNI. Je connais certains des traducteurs. C'est une bonne traduction et elle a été réalisée par de bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un utilise le NRSV? Le NRSV, d'accord, Kyle, y en a-t-il d'autres? NRSV est la nouvelle version standard révisée, c'est également une bonne version. Cela a été fait dans un anglais plus large, comment dire, plus que simplement en anglais américain. Quelqu'un utilise le SV. ESV et RSV sont proches comme ça. Le SV Lest, à mon avis, et d'ailleurs, permettez-moi de faire ceci. Quand je passe par ici, cela veut dire que je vous donne mon avis, là-bas il y a la Bible, c'est mon avis. Ai-je droit à un avis? Oui, mais quand je viens ici, est-ce que vous y faites confiance ou pas? C'est moi, fais-lui confiance. Ce que j'essaie de vous dire, c'est mon opinion et je peux me tromper. Mais j'ai vérifié le SV dans des milliers d'endroits et, fondamentalement, c'est une imitation du NRSV. Mais le NRSV est très bon. Le SV est bon. Est-ce que quelqu'un utilise la NLT, New Living Translation? Il faut être très prudent avec celui-là. Surtout dans le livre des Proverbes et ailleurs, vous devez être très prudent avec le NLT. Parfois, il suffit de consulter le livre des Proverbes et de voir les problèmes qui y sont liés. Triste blague, j'étais l'un des traducteurs du NLT pour les Proverbes. Je dis cela avec un sourire narquois sur le visage. Alors, quelles autres traductions avons-nous? Version King James, est-ce que quelqu'un fait King James? Vous remarquerez que je cite souvent le King James. Je regarderai souvent la NIV mais je lirai King James dans ma tête parce que quand j'étais enfant, j'ai été formé à la version King James KJV et le King James est toujours très profond en moi. Le King James est l'une des plus belles traductions jamais réalisées. C'est un travail phénoménal. Est-ce que quelqu'un utilise la nouvelle version King James? La nouvelle version King James est très utile et supprime une grande partie des « toi » et des « tu », ce qui la rend plus lisible. C'est une traduction bien faite, le New King James. Tout va bien. Et l'introduction du DAV version digitale American Standard 25-23-28-33. Maintenant, je veux vous présenter quelque chose, les gars. Il y a environ 2 ans, j'avais une fille en classe qui avait du mal à voir. Quand je lui ai fait passer un test, je lui ai fait faire un test de 46 pages car la police devait dépasser 24 PTS. Donc chaque page contenait une ou deux questions, c'était tout ce que je pouvais trouver sur certaines pages. Elle avait du mal à voir. Deuxièmement, l'année dernière, je ne veux pas utiliser son nom, mais une fille était assise juste devant, une personne formidable, mais elle était aveugle et elle se promenait avec une canne. Puis je me suis demandé comment faire passer la parole de Dieu à quelqu'un comme ça. Ils doivent pouvoir le faire, dans le cas de celui-là, je ne veux pas dire son nom, mais laissez-moi juste inventer un nom, Janice, il fallait pouvoir faire exploser la police. Au fait, un ordinateur est-il une chose merveilleuse pour faire exploser la police? Avez-vous déjà fait cela avec le web où vous appuyez sur « Contrôler » et vous pouvez faire grandir la police directement sur votre écran? Contrôle, le réduit à nouveau. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire ma propre traduction de la Bible, et vous dites que c'est vraiment arrogant et c'est probablement le cas et c'est probablement stupide. Quoi qu'il en soit, je l'ai fait. Ce que j'appelle, c'est le DAV. DAV est la version numérique américaine standard. Il est construit à partir de l'ASV de 1901. J'ai utilisé l'ASV comme base puis je l'ai modifié et mis à jour. Quel est l'avantage quand c'est au format numérique? C'est en ligne. Si c'est à l'écran, pouvez-vous l'imprimer? Oui, c'est au format PDF, c'est au format DOC, vous utilisez DOC, Microsoft Word, c'est au format HTML. Utilisez-vous PDF, HTML, DOC? Quel est l'avantage de le mettre en DOC? Pouvez-vous le déposer dans votre traitement de texte? Pouvez-vous le couper et le coller? Oui. Quel est l'avantage du PDF? Il peut être lu sur Mac et PC et partout. Quel est l'avantage du HTML? Lorsque vous cliquez dessus, il apparaît instantanément à l'écran. HTML est le langage du web. De plus, j'ai également créé, malheureusement avec ma voix, ce qu'on appelle des MP3 audio. Autrefois, ils avaient ces choses qu'on mettait sur son bras, on les appelait, je pense que c'était des iPods. Vous mettez ces trucs sur votre bras, puis vous mettez ces trucs dans vos oreilles et vous vous promenez avec ce truc et vous sortez faire du jogging. Ou si vous êtes ma femme et que vous devez vous rendre à l'OL tous les jours et que vous voyagez 1h10 en voiture, vous coupez le MP3 et le mettez sur un CD. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter des livres pendant que vous êtes dans la voiture parce que vous voyagez 2h30 par jour pour aller travailler? Il existe donc des audios MP3 pour toute la Bible. Cela signifie alors, pouvez-vous écouter les Écritures? C'est donc l'un des avantages du DAV. J'explore d'autres choses comme les images avec du texte et la combinaison d'images avec des textes et le format numérique me permet de le faire. C'est en ligne et pour être honnête avec vous, jeudi il y a 2 semaines, je l'ai enfin terminé. Après un long moment, je l'ai enfin terminé, et il est maintenant chez mon éditeur, Chronique sera le dernier tome. Mon éditrice est ma mère. Elle en édite la dernière partie. Quoi qu'il en soit, le DAV Digital American Standard Version est également disponible en ligne pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser. Monsieur Notre Père Abraham par Dr. Marv Wilson 28-34-34-19. Désormais, le seul livre que vous devez acheter pour ce cours est le livre du Dr. Marv Wilson, Orphater Abraham. C'est un classique ici. C'est fait par le Dr. Wilson, qui enseigne à Gordon. Y a-t-il des copies usagées de notre père Abraham partout sur ce campus? Chaque étudiant venu ici a dû acheter ce livre, donc il y en a des exemplaires usagés partout. Vous devriez donc pouvoir l'obtenir à un prix relativement bas. Laissez-moi vous expliquer la dernière partie de ce cours, en ce qui concerne ce qui est requis pour ce cours. Laisse-moi venir ici pour faire ça. La vérité honnête, c'est que, quand je vous regarde, je n'aurais jamais pu m'asseoir là où vous êtes assis. Quand j'étais à l'université, j'étais vraiment pauvre. J'ai fini par travailler 40 heures par semaine et aller à l'école. Vous dites, oh, c'est vraiment quelque chose de travailler 40 heures et d'aller à l'école, ça a dû être sympa. Quand on travaille 40 heures par semaine et qu'on fait des études d'ingénieur à plein temps, ce n'est pas chouette. Ce n'est pas amusant, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment compliqué. Mais j'étais très pauvre et mes parents et aucun membre de ma famille n'allait à l'université. J'étais donc le premier. Ce collier que je porte est blanc maintenant, mais ce collier est vraiment bleu. Bleu jusqu'au cœur, mes parents ne sont jamais allés à l'université. J'étais donc le seul à aller à l'université. Mes parents n'avaient pas d'argent, ils pouvaient à peine se permettre de vivre. Alors, ai-je grandi avec une réelle idée de ce que signifiait l'argent et des limites qui en découlent si on ne l'avait pas? Eh bien, il y a 5 ans, j'attribuais des livres à cette classe et les livres coûtaient près de 100 $. Avez-vous acheté vos livres? Avez-vous payé 100 $ pour des livres pour les cours? L'Ancien Testament commençait à coûter 100 $ pour les livres. J'ai dit, c'est fou. Si j'étais étudiant et que je venais à ce cours et qu'on me facturait 100 $ pour des livres, cela ne serait pas bon. Je pensais qu'il devait y avoir une meilleure façon de procéder. Je sais aussi ce que c'est que de publier des livres. J'ai publié des livres, des CD, etc., etc. Question, combien gagne l'éditeur? Laissez-moi le dire ainsi, c'est le truc de ma femme, dit-elle, vous avez passé tout l'été à travailler sur cet article sur la littérature sur la sagesse, et ils l'ont publié dans Elle InterVarsity. Dictionnaire de la sagesse et de la poésie. J'ai donc passé tout l'été à travailler dessus et cela représente 200 à 300 heures de travail. Combien suis-je payé pour cela? Je vais être honnête, combien ai-je été payé pour cela? 250 $. Comprenez-le. Ma femme est CPA, elle l'a fait. Et elle a dit, vous gagnez moins $1 de l'heure. Pourquoi n'allez-vous pas dans un Sam's Club ou chez Walmart et soyez un hôte d'accueil, au moins vous gagnerez le salaire minimum. Ce serait une augmentation de 600%, Ted, au lieu d'écrire toutes ces conneries. Ce que je vous dis, c'est que les éditeurs gagnent 90% et les auteurs moins de 10%. Alors maintenant, mon truc, et c'est ce qui me passionne vraiment, est de tirer parti d'Internet. Tirer parti du support numérique pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, cela signifie que je connais beaucoup d'érudits maintenant parce que je suis un vieil homme. Je vais voir mes copains et amis et je leur dis, eh, vous avez un droit d'auteur sur cet article, pouvons-nous utiliser cet article au Gordon College? Puis-je le publier en ligne? Maintenant, question, quand je le mets en ligne, quel est l'avantage? Puis-je maintenant le publier en texte intégral, HTML, doc, PDF, puis-je également en faire un fichier audio MP3 pour que vous puissiez écouter ces articles? Vous pouvez désormais l'écouter et le lire. Au fait, est-ce que certaines personnes aiment le lire au fur et à mesure qu'on leur le lit? Vous pouvez en fait le configurer pour qu'il vous lise pendant que vous regardez le texte et le comprenne à la fois dans vos yeux et dans vos oreilles. Quoi qu'il en soit, j'ai parcouru et fait cela, et j'ai essentiellement tout ce dont vous avez besoin dans le cours. Alors, qu'est-ce que ça va vous coûter? Cela vous coûte une fraction de cela. Donc vous me payez 10 $ et cela vous fournit tout le matériel pour ce cours. C'est essentiellement ça. Donc, pour être honnête avec vous, cela permet à tout le monde dans cette classe d'économiser au moins 50 $ et, de manière réaliste, plus de 75 $. Vous dites, mais, Hildebrandt, vous gagnez 10 $ pièce, vous gagnez tout cet argent. Laissez-moi vous dire ceci, après plusieurs années à faire cela, combien est-ce que je gagne? La réponse est là, 0, Parce que ça me coûte. Franchement, je dois payer certaines de ces personnes pour une partie du matériel. Nous allons voir des vidéos et autres. J'ai dû payer ces gens. Mon objectif, et j'ai plutôt réussi jusqu'à présent, est de ne rien gagner et c'est ce que j'ai fini par arriver. Une fois que j'ai terminé, comment devrais-je dire, j'utilise le contenu que vous me donnez pour développer davantage ce contenu. C'est donc un peu ce qui se passe là-bas. C'est toutes les cartes sur la table. C'est un peu comme ça, mais c'est 10 dollars. Alors, vous demandez où se trouvent tous les documents en ligne dont vous parlez. C'est ce qu'il appelle Internet. Cela s'appelle, laissez-moi, je m'appelle Al Gore, j'ai inventé ça. Désolé, je dois faire attention à ça maintenant. C'est sur bande vidéo. C'est ce que le président Bush a appelé, Google. Je ne connais pas ma propre URL, c'est la vérité honnête. Voici donc comment accéder à mon site. Au fait, c'est à l'extérieur de Blackboard, c'est dans l'espace public. Ainsi, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez accéder à ce matériel de n'importe où, c'est sur le web. Je vais aller sur Google. Voici comment accéder à mon propre site, je tape Ted Hildebrandt, il se trouve ici en haut dans le champ de recherche. Je tape Ted Hildebrandt. J'appuie sur « Rechercher » et voilà, vous le voyez, Théodore, l'autre nom de Théodore pour « Ted Hildebrandt » et il est écrit « Gordon College », alors je clique sur ce lien pour accéder à mon site web. Après l'avoir cliqué, je pourrais le mettre en signé, car est-ce que je vais y retourner encore et encore, alors je le mets en signé. N ressources de cours en ligne 34, 20-37, 28. Voici le site. Au fait, quand vous entrez ici, voyez-vous le DAV, le Digital American Standard. Voyez-vous que ceci dit, Ancien Testament, BCM 101, c'est nous. Alors vous allez, Ancien Testament, BCM 101, et vous cliquez là, et qu'est-ce qu'il y a ici? La syllabe? Avez-vous besoin de cet imprimé? Oui, c'est vrai, car certains d'entre vous vont perdre leur programme. Est-ce toujours là? C'est toujours là. Voici donc le HTML, doc, PDF de votre programme. Vous avez maintenant des copies de votre programme, vous n'avez donc pas besoin de celui électronique. D'accord, voici quelques anciens guides d'études issus d'anciens examens. Voici votre devoir de la première semaine. Que dois-tu faire pour jeudi prochain? Vous allez lire Genèse janvier 2025, vous pouvez le faire dans le DAV. Voici le DAV. Vous pouvez le faire à partir d'un fichier zip DAV. Il y a maintenant quelques articles que vous devez lire, et alors où sont les articles? Vous descendez juste ici, et vous voyez celui-ci ici, il est écrit, Dr. Helen Phillips, Introduction à la théologie. Vous avez donc du HTML, du doc, puis un MP3. Le MP3 veut dire quoi? Vous faites un clic droit sur le lien MP3 et vous cliquez sur « Enregistrer sous », puis vous l'enregistrez sur votre ordinateur ou sur un lecteur de son et vous avez l'audio prêt à l'emploi. Voici maintenant le Dr. Perry Phillips. Le Dr. Perry Phillips est titulaire d'un doctorat en astrophysique et écrit sur les jours de la Genèse, les 7 jours de la création. C'est un scientifique, titulaire d'un doctorat de l'université Cornell, et il écrit sur les jours de la Genèse, HTML, doc, PDF et MP3 pour que vous puissiez l'écouter. Voici Doc Carson, maintenant, Carson est un super érudit et j'ai à nouveau son, défi du pluralisme, dans les trois formats imprimés et en audio MP3 pour que vous puissiez l'écouter. Maintenant, pour ce cours, permettez-moi de vous donner les premières questions du quiz pour jeudi prochain, voici votre première question de quiz, n'est-ce pas, n'écrivez pas ça, c'est stupide. La première question est, avez-vous lu Genèse janvier 2025? Combien as-tu lu? Avez-vous lu 100%, 90% ou 80%? Quelle quantité de Genèse janvier 2025 avez-vous lu au cours des trois dernières semaines? Je veux dire que je veux que tu fasses quoi? Lisez Genèse janvier 2025. Avez-vous lu le livre primé, Sialagie primée d'Helen Phillips? Oui ou non? Avez-vous lu Days of Genesis de Perry Phillips, oui ou non, et combien si vous n'aviez pas tout lu? Maintenant, concernant l'article de Dacarson, je vais vous poser des questions spécifiques. Vous devez donc lire Carson plus en détail car je vais vous poser une ou deux questions sur le contenu de l'article de Carson. Voici les versets à mémoriser, deux versets à mémoriser, Genèse entre 1h27 et 2h24. Au fait, voici tous les PowerPoint, j'utilise des PowerPoint en classe. Voici tous les PowerPoint que j'aurai à l'écran. Question, cela signifie-t-il que vous devrez copier tous les PowerPoint? Non, téléchargez-les simplement et mettez-les sur votre ordinateur. Vous pouvez accéder à PowerPoint, extraire tout le texte et le mettre dans Word, ou même prendre des notes sur les diapositives PowerPoint elles-mêmes. Les PowerPoint sont là pour que vous n'ayez pas besoin de tout écrire. C'est là que vous pouvez les utiliser dans le cadre du matériel de cours. En voyez-vous l'avantage? Les PowerPoint sont donc répertoriés ici. Au quiz biblique en ligne 37, 29-41, 50. Bible Robic, nous ferons quelques Bible Robic, et nous ferons cela dans quelques minutes. Voici un quiz à choix multiples. Lorsque vous lisez Genèse janvier 2025, voici les histoires que je veux que vous connaissiez. Vous lirez de gros morceaux de la Bible, je ne peux pas te faire savoir tout, n'est-ce pas? Je vais donc lister les histoires que je souhaite que vous connaissiez et dont vous maîtrisiez les détails. Je vais vous poser des questions spécifiques sur ces histoires spécifiques. Maintenant, Peter Story a construit un quiz HTML5/JavaScript, un quiz biblique, sur le livre de la Genèse, je vais donc cliquer sur ce menu déroulant de Genesis pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est plutôt amusant. Voici un quiz biblique créé en ligne. Tout cela est en ligne, là-bas, vous pouvez le faire de n'importe où et à tout moment. Voici le livre de la Genèse, chapitre 1 à 50. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez des niveaux de difficulté débutant, intermédiaire ou avancé. Que voulez-vous essayer? Avancé, d'accord, ces gars sont bons. Très bien, essayons les questions avancées, et je vais cliquer sur le début, et nous allons cliquer sur « Suivant ». Puis environ 10 minutes plus tard, cela reviendra, c'est venu rapidement. Alors, notre première question, qu'est-ce que Jacob a mis sur le tombeau de Rachel? Des fleurs, on met habituellement des fleurs sur une tombe, n'est-ce pas? Un pilier, une pierre de chacun de ses enfants. Si quelqu'un a vu la liste de Schindler, il a posé une pierre. Bref, un autel pour le Seigneur. Quelqu'un a parlé d'un autel. Nous allons donc choisir un autel. Maintenant, quelle couleur est apparue? C'est censé être rouge, donc le retour vous est adressé lorsque vous vous trompez. La bonne réponse apparaît envers la couleur qui grandit. C'était donc vraiment un pilier, il a construit un pilier comme mémorial. Ce n'est pas une mauvaise supposition, un autel pour le Seigneur. Ils ont construit de nombreux autels. Alors je clique sur « Suivant » et nous pouvons passer à l'époque où les descendants de Sem étaient sur la terre a été divisée, à quelle époque? Et puis il vous donne ses noms. Au fait, ces questions sont-elles avancées? Oui. Nimrad, c'était une excellente supposition, parce que Nimrad était un puissant chasseur devant le Seigneur, mais elle a deviné et je ne veux pas pousser Nimrad parce que je me sentirai encore mal. Je vais pousser Peleg. Le mot « Peleg » en hébreu signifie « diviser », vous savez, vous aimez diviser les langues. Peut-être devrais-je choisir le bon. Pourquoi est-ce que je ne choisis pas Luddite juste en l'honneur des Luddites? Savez-vous ce qu'est un Luddite, quelqu'un? Je vais choisir Luddite et vous voyez que la réponse était vraiment Peleg. Peleg apparaît comme la bonne réponse et dit « Non, Luddite a tort ». Question de l'étudiant, nous n'aurions pas dû choisir les questions avancées, elles sont trop avancées. Si vous choisissiez les premières questions, vous diriez, qui était la femme d'Adam, ou quelque chose comme ça. Voyez ce qu'il fait. Permettez-moi de recommencer ici, laissez-moi en fait revenir au sélecteur de quiz, donc vous revenez simplement au sélecteur de quiz. Il est paranoïaque, alors laissez-moi aller ici et cliquer sur « Suivant ». Voici une question de départ. Qui a vécu le plus longtemps dans Genèse 5? Qui a vécu le plus longtemps? Mathusalem? Voilà donc le quiz. Maintenant, vous dites que je ne connaissais toujours pas Mathusalem, alors le quiz biblique est en ligne ici. Toutes les questions du quiz seront tirées de la section « Facile », le niveau « Débutant ». Ainsi, vous pouvez passer en revue celle du niveau « Débutant » et vous arriverez aux 193 questions. Il ne faudra pas longtemps pour les parcourir. Des premières questions surgiront. Cependant, Mathusalem ne participera pas à votre quiz. Alors, est-ce que tout le monde voit comment ça marche? Alors permettez-moi de revenir à ce quiz sur l'Ancien Testament et j'ai terminé la Genèse jusqu'au Deutéronome. Ensuite, franchement, j'étais en train d'écrire 700 questions pour le livre de Josué et, je dois être honnête avec vous, j'ai tout simplement manqué de temps. Je n'en ai plus fait et je n'ai pas réussi à reprogrammer le flash et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le faire. Mais j'ai fait de la Genèse au Deutéronome, faire cela à travers le Deutéronome est d'ailleurs une tâche assez importante. Nous aurons donc le quiz pour cela. Voici donc les histoires que vous devrez connaître. P. Devoir de transcription 41, 51-46, 59. Revenons à votre programme. L'une des choses que nous ferons en classe est d'établir une politique d'assiduité et des crédits supplémentaires. Mais avant d'accorder le crédit supplémentaire, laissez-moi décrire une mission et vous pourrez y réfléchir. Aujourd'hui, je veux que vous vous répartissiez en groupes. Vous vous diviserez donc en groupes de 6 ou 7. Alors regardez autour de vous et pensez à vous diviser en groupes de 6 ou 7. Maintenant, qu'allez-vous faire d'ici jeudi prochain? Laissez-moi essayer d'expliquer ce qui va se passer. Ce que vous allez faire, c'est que je vais vous donner une section audio de 10 minutes et que vous allez taper ce que la personne a dit. J'appelle cela, transcrire. Vous savez ce qu'est la transcription. Vous écoutez et vous transcrivez 10 minutes et vous l'avez. Maintenant, il y aura 6 personnes dans votre groupe, ce qui signifie 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, vous prenez les 6 personnes et vous les rassemblez et qu'avez-vous? Vous avez une heure de cours. J'ai donc des conférences du Dr Dave Mathewson et du Dr Robert Vanois. Ces gars sont vraiment des super savants et on va transcrire leurs cours pour les mettre dans quoi? HTML, doc et PDF. Maintenant, pourquoi je fais ça? Laisse-moi revenir ici. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que ça ne se vend jamais très bien auprès des étudiants, mais si je continue à le dire, j'espère que ça fera son chemin. Quand j'allais à l'université, c'était comme je vais à l'université, nourris-moi, nourris-moi, apprends-moi, tout ça, apprends-moi, apprends-moi, et c'était toute cette autonomie. Ce que je veux que vous fassiez, c'est réfléchir au fait que vous êtes au Gordon College. Le Gordon College est-il un endroit vraiment incroyable? Vous avez de la chance d'être ici, je sais que nous n'utilisons plus le mot « chance ». Mais c'est spécial que tu sois ici. Mon truc, c'est, est-ce que nous, au Gordon College, devons développer des choses pour aider les chrétiens d'autres endroits qui ne l'ont pas aussi bien que nous? Donc ce que nous voulons faire, c'est créer ces conférences qui sont tirées du Dr Robert Vanois, spécialiste de Samuel. Nous prendrons ces conférences, les transcrirons et les mettrons à la disposition des gens du monde entier. À propos, des gens du monde entier viendront-ils au Gordon College pour utiliser ces conférences et les aider dans l'église chrétienne? La réponse est oui. Je veux donc que vous réfléchissiez à l'apprentissage en termes de production de choses qui aident d'autres personnes qui ne sont pas aussi privilégiées que nous. Maintenant, vous dites, oh, oui, Rille de Brent, ça veut juste dire du travail. Oui, cela signifie une heure de votre temps. Une heure de travail et nous avons tout mis en place. Donc, dans chacun de vos groupes de 6 ou 7, vous aurez une personne qui sera éditeur et il est préférable qu'elle soit une majeure en anglaise ou quelqu'un comme ça. Vous avez une personne qui est éditeur et vous avez ce que nous appelons des scribes et vous avez 5 ou 6 scribes. Les 5 ou 6 scribes recevront un audio MP3. Ils vont le taper. Cela prendra environ 10 minutes et cela vous prendra environ une heure selon la vitesse à laquelle vous tapez. Laissez-moi vous confier un secret très important, et vous dites, Rildebrandt, comment sais-tu tout ça? J'ai moi-même fait des heures et des heures de transcription, donc je sais exactement combien de temps ce travail prend et les problèmes qui en découlent. Lorsque vous obtenez votre audio, si vous le mettez à fond, est-ce que le gars parle beaucoup plus vite que vous ne pouvez taper?
Oui.
Il parle à toute vitesse et vous n'arrivez pas à suivre. Si vous êtes sous Windows et dans Windows Media Player, il y a un bouton de lecture. Il y a un triangle sur le bouton, Play. Si vous faites un clic droit sur ce bouton de lecture, vous pouvez le régler sur lent, et cela le ralentit considérablement. Maintenant, question, quel est l'avantage? Si Vanois va lentement, puis-je presque le suivre en tapant? Je n'arrive toujours pas à le suivre, mais maintenant je fais une minute à la fois, je vais écrire une minute. Que dois-je faire? Tu attrapes le petit truc à récurer en bas et tu le reprends. Savez-vous comment faire cela? Ramenez le laveur et rejouez-le, une minute. Ensuite, vous recommencez. Tapez, puis recommencez. Alors, après environ deux ou trois tentatives de retrait pour dépasser la minute, ai-je tapé la minute? Ensuite, je passerai à la deuxième minute, et cela durera une ou deux minutes. Ensuite, je vais parcourir et je taperai aussi vite que possible la première fois et j'en obtiendrai environ 80 ou 70%. Ensuite, je reviendrai à la minute près et je l'écouterai à nouveau. Mais la lenteur du lecteur multimédia est vraiment importante et très utile. Maintenant, les Mac, je ne suis pas un Mac, je suis un chrétien. Désolé, mais de toute façon, je ne devrais pas dire ça, surtout le jour où Steve Jobs a démissionné aujourd'hui. Steve Jobs a démissionné aujourd'hui, c'est un gros problème pour vous, les Mac. Quoi qu'il en soit, sur Mac, vous pouvez ralentir le Mac. Je ne sais pas comment faire, mais on me dit que si vous accédez aux propriétés ou à quelque chose dans le lecteur Mac, vous pouvez ralentir le Mac et le configurer pour qu'il ralentisse. Donc Mac peut le faire aussi. Vérifiez auprès de cette s'ils savent comment faire cela, je ne sais pas comment le faire car c'est Mac et je ne suis qu'un PC. Les utilisateurs Mac peuvent télécharger gratuitement le lecteur multimédia VLC et, dans le coin inférieur droit, ralentir la vitesse de ce lecteur en ajustant le nombre. Alors ça s'en vient, alors pensez aux groupes dans lesquels vous allez pénétrer. Q-Tests et Quiz 46, 50-48-04. Dans ce cours, si vous voulez une bonne note, vous devrez passer les tests. Fondamentalement, c'est ainsi que la classe fonctionnera, tous les jeudis, quiz, 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 toutes les 5 semaines environ, il y aura un test. Quiz, 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 test, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc chaque jeudi, c'est soit un quiz, soit un test à ce genre de rythme. Maintenant, si vous dites, j'ai bombardé les quiz de Rildebrandt, je ne sais pas qui était la mère de Mathusalem, Rildebrandt avait cette question sur la mère de Mathusalem, et je ne le savais pas, donc je l'ai raté et je veux améliorer ma note. Vous pouvez faire un crédit supplémentaire ici. Vous pouvez faire des transcriptions supplémentaires, et d'ailleurs, nous enregistrons tout cela, donc vous pouvez réellement faire des transcriptions de ce cours. Nous publierons également les transcriptions au fur et à mesure que nous les recevrons pour que toute la classe puisse aider les autres. Vous pouvez également faire d'autres transcriptions. J'ai reçu des conférences du Dr. R. Laird Harris qui a parlé du Lévitique et était un expert du Lévitique. Pour que vous puissiez faire cela pour obtenir un crédit supplémentaire, vous devrez faire une transcription complète. Vous devrez faire toute l'heure, ce qui vous prendra environ 6 à 10 heures. Ensuite, 5 points de crédit supplémentaires sont ajoutés à votre moyenne finale. C'est donc une façon de procéder. Vous pouvez également faire des versets à mémoriser. Option R avec spécialisation 48, 05-49, 48. Je veux aussi faire un peu de publicité pour l'option de l'honneur. Qu'est-ce que l'option mention spéciale? L'option honneur à la page 5 et cela fonctionne comme ceci, si vous obtenez un score supérieur à 92 au premier examen et que vous avez obtenu des quiz meilleurs qu'un 90, vous pouvez demander l'option honneur. En fait, vous pouvez sortir de l'examen final en faisant vous-même deux transcriptions. Cela revient à dire que deux transcriptions vous prendront probablement entre 10 et 12 heures. Alors vous dites, eh bien, ça fait 10 à 12 heures, je pourrais avoir. Quel est l'avantage de ne pas aller en finale? La semaine des finales, toutes les classes ont des finales. La semaine des examens est vraiment difficile avec tous ces examens. Si vous pouvez vous décharger d'une de ces finales et dire que je n'ai pas besoin de passer une finale en cours d'Ancien Testament, cela vous libère-t-il pour mieux étudier pour vos autres examens? Utilisez vos têtes. Ainsi, vous pouvez faire les transcriptions. Quand dois-tu faire ça? Vous pouvez le faire à votre rythme, quand vous le souhaitez, et vous sortez ensuite de la finale. Il y a donc un avantage à faire cela. C'est ce qu'on appelle l'option avec distinction. Les évaluations ici sont données à mon bénéfice, je note sur une courbe. Mais c'est là que je commence ma courbe. Donc, si vous souhaitez obtenir la note, effectuez simplement le travail de crédit supplémentaire, et cela vous permettra d'ajuster votre propre note. Je crois aux courbes, j'enseignais avec un vieil homme de 75 ans. Il a dit qu'il ne croyait pas aux courbes. Pour lui, les courbes appartenaient aux routes, au baseball et aux femmes, pas aux examens et aux notes. Maintenant, je dis ça, le gars avait 75 ans, donnez-lui une chance. Vous dites, c'est une déclaration très sexiste. Le gars a 75 ans, d'accord, laisse-le vivre. Je dis que les courbes font également partie de mes résultats au test. Nous allons donc y travailler. Est-ce devoir pour la semaine à venir 49, 49-51, 33. Ensuite, si vous retournez le projet audio décrit à la page 6 avec la transcription audio. Ensuite, si vous passez à la page 8, c'est ce que vous devez garder ouvert. C'est là que l'action se déroule et c'est essentiellement le 1er septembre. Voyez-vous le 1er septembre? Que faut-il rendre jeudi prochain? Vous devez lire le « Sialagi primé », vous devez lire les « Days of Genesis », vous devez lire les « Challenge of Pluralism ». À propos, le « Guide de théologie » et les « Jours de la Genèse », devez-vous connaître tous les détails à ce sujet, ou devez-vous simplement les lire? Lisez-le simplement. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Vous devez connaître les détails des « Défis du pluralisme ». Lisez la Bible Genèse 1 à 25. Fondamentalement, vous devez faire vos transcriptions, sont du jeudi prochain également, ce qui, je vois, n'est pas répertorié ici, mais celles-ci seront dues la semaine prochaine et vous entrerez par effraction. Groupe dans une minute ici. Vous devez vous diviser en groupe, mais avant de vous diviser en groupe, vous devez connaître Genèse 1 à 25. Je vais vous enseigner Genèse 1 à 25 en Bible robique. Cela veut dire que tout le monde est debout, nous allons faire Genèse 1 à 25, voici comment ça se passe. Tout le monde, levez-vous et réfléchissez à faire partie de vos groupes. Mais voici Genèse janvier 2025. Faites des robiques bibliques. Donc, à 7h ou 8h, dans cette salle tous les mercredis soirs, Kyle fera les révisions des examens. Les quiz ont toujours lieu le jeudi, donc il les fera tous les mercredis soirs ici, de 7h à 8h. C'est bon à savoir, il vous préparera pour ça. Revenons Y, nous devons faire deux autres choses. Nous avons un examen d'évaluation biblique, nous allons donc essayer d'évaluer le type de niveau de connaissance biblique que vous possédez. Ce sera notre premier quiz, ça ne compte pas, mais c'est juste une sorte d'évaluation que nous faisons. Tes preuves sur l'existence de Dieu 51, 34-52, 16. Avant de faire cela, je voulais commencer par quelques présupposés sous-jacents. Au Gordon College, nous croyons que ce livre, la Bible, est la parole de Dieu. Maintenant, cela fait quelques hypothèses. Si ceci est la parole de Dieu, alors notre première hypothèse est qu'il existe un quoi? Il y a un Dieu. Vivons-nous dans une culture où l'athéisme tente de faire un grand retour? Il y a environ 4% des Américains qui sont athées et qui tentent de faire un grand retour. Donc il y a tout ça, Dawkins et tout ça, etc. etc. Alors pourquoi croyons-nous que Dieu existe? Au fait, peut-on prouver l'existence de Dieu? La réponse est non. Est-il raisonnable de croire qu'il existe un Dieu? Oui, même si nous ne pouvons pas le prouver. Donc, ce que je veux faire, c'est passer en revue certaines des preuves de l'existence de Dieu. Argument cosmologique 52, 17-54, 34. L'une des preuves que nous allons utiliser est l'argument cosmologique. D'ailleurs, ces arguments se trouvent tous sur le web. Il y a une feuille entière et je vous la donnerai la prochaine fois avec tout cela imprimé dessus. Mais l'argument cosmologique fonctionne fondamentalement comme ceci, cause-effet, cause-effet, cause-effet. Si je vous regarde, puis-je supposer que vous aviez des parents? Au fait, est-il possible que vous ne connaissiez pas vos parents mais avez-vous eu des parents à un moment donné? Maintenant, vous dites, Meryl de Brent, maintenant ils peuvent le faire dans un tube à essai. D'accord, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si je te regarde, je peux supposer que tu avais des parents. Vous examinez donc les effets et réfléchissez aux causes. Vous voyez un accident de train, pouvez-vous supposer lorsque vous voyez un accident de train que quelque chose s'est mal passé? Quand vous voyez les effets des choses, pouvez-vous en supposer les causes? Cause-effet, cause-effet, cause-effet. Les relations de cause à effet et de cause à effet peuvent-elles fonctionner tout au long de milliers d'années de cause à effet? Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous revenez à la cause première? Quelle est la première cause qui a tout causé? Cause-effet, cause-effet, cause-effet fonctionne depuis le début, quelle est la première cause? Vous dites, eh bien, la première cause était que l'univers entier était réuni, en un seul grand, en fait il était petit, il avait à peu près la taille d'un pamplemousse, n'est-ce pas? C'est censé avoir la taille d'un pamplemousse ou d'une pastèque. Tout s'est passé une fois, alors que s'est-il passé? Boum, ça a explosé et l'univers est né. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion initiale? D'ailleurs, même les scientifiques qui ne croient pas en Dieu doivent trouver un moyen pour que cette chose démarre. Nous, en tant que chrétiens, dirions que la cause première est quelle? Dieu. Et donc, en d'autres termes, cause-effet, 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 nous revenons à la cause originelle, et la cause première est Dieu. D'autres personnes doivent-elles proposer autre chose comme cause première? À propos, quand vous avez réuni l'univers entier dans une pastèque et que vous devez tout faire exploser, devez-vous avoir quelque chose d'assez puissant qui puisse défier la gravité et simplement faire exploser le tout comme ça? Quel genre de force cela prend-il pour un univers? Donc la première est la cause première et nous suggérons que Dieu est notre cause première, d'autres personnes peuvent proposer d'autres causes, mais lorsque vous utilisez cette histoire de cause à effet en remontant, c'est comme ça. V. Argument téléologique Jolly Green Giant Argument de conception 54, 35-60, 49. Celui-ci me plaît beaucoup. Cet argument est appelé argument téléologique. C'est l'argument du design. Ce que cela signifie, c'est que j'appelle cela mon argument, Jolly Green Giant. Vous êtes tous assis sur des chaises, voyez-vous comment les chaises sont disposées? Des rangées, une allée par là, 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 et une dizaine de rangées en retour. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un joyeux géant vert, et nous allons décrocher toutes les chaises, ne faites pas ça, mais nous allons décrocher toutes les chaises. Le joyeux géant vert va alors ramasser le bâtiment de Jenks, il va le secouer et il va le démolir. Quand il le posera, je veux que les chaises soient exactement dans le même ordre. Au fait, il y a quoi, 110 chaises? Ce n'est pas grave. 110 chaises, je les veux exactement telles qu'elles sont maintenant, allez par là, allez par là, allez par là, allez par là, c'est rangé, 3 là, 4 là, d'accord, exactement comme cette configuration. Maintenant, je vais le laisser faire un milliard de fois. Il secouera Jenks un milliard de fois et le posera. Question, pensez-vous qu'après un milliard de fois, cela ressortirait exactement comme ça une seule fois? Vous dites, nous sommes américains, et nous ne faisons plus des milliards, nous en faisons des milliards. Maintenant, je ne rirais pas trop si j'étais vous parce que c'est vous qui êtes obligé de payer. Alors je vais vous donner 1 milliard de milliards, le géant va le secouer pendant 1 milliard, des milliards d'années et il va continuer à le faire. Combien d'entre vous pensent que dans 1 milliard, 1 billion d'années, les chaises s'aligneront ainsi? Combien d'entre vous pensent qu'après l'avoir fait la première fois, ces chaises seraient tellement emmêlées qu'elles resteraient en désordre pour toujours? Quand vous voyez l'ordre, si vous êtes entré dans cette pièce et que vous venez de naître de l'éther cosmique et que vous êtes entré dans cette pièce et que vous êtes entré dans cette pièce comme votre première expérience en tant que petit bébé entrant, et vous avez regardé autour de vous et avez vu ces chaises, supposeriez-vous que ces chaises provenaient d'un glacier qui a poussé ces chaises dans cet ordre? Laissez-moi vous emmener différemment, promenez-vous avec moi dans le Sinaï. Marchez avec moi à travers le désert du Sinaï, ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines parce que mon guide m'a dit que nous devions parcourir le Sinaï. Eh bien, marchez dans le Sinaï, il y a des rochers partout. Tout d'un coup, nous marchons sur cette chose, il y a un cercle de rochers d'environ cette taille, 10 pieds de diamètre, et du côté ouest, il y a 2 rochers disposés comme ceci et il y a un rocher qui passe par-dessus comme ceci et il y a un trou là-dedans du côté ouest et vous pouvez en quelque sorte ramper là-dedans. C'est un peu comme un igloo fait de rochers. Maintenant, quand nous avons vu ces Nawami dans le Sinaï, cet igloo, pour la première fois, et, à propos, ils étaient 10, et ils avaient tout la porte tournée vers l'ouest. C'était comme pour les nains ou quelque chose comme ça, il fallait descendre là-bas pour entrer. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, quand nous avons touché les 10, ils faisaient tout face à l'ouest et la porte était à peu près aussi haute. Avons-nous supposé que cela avait dû se produire de cette façon, que le glacier les avait en quelque sorte fait tomber de cette façon? Combien d'entre vous, quand vous vous approchez et en voyez 10, tout tourné vers l'ouest, avec la porte creuse au milieu, combien d'entre vous supposeraient que ce sont juste des causes naturelles, il n'y avait aucun plan pour que cela se soit produit de cette façon? Quand vous voyez ce niveau d'ordre, ne dites-vous pas que quelqu'un a fait cela? Certains d'entre vous viennent du New Hampshire. Avez-vous déjà marché à travers les bois et tout d'un coup vous êtes de retour dans les bois et vous voyez cette rangée de rochers, tous alignés droitement et cela ressemble à une paroi rocheuse? Quand vous voyez cette paroi rocheuse alignée tout droit, avez-vous supposé que le glacier avait fait cela ou que les gens avaient fait cela? Quand vous voyez ce niveau d'ordre, l'ordre exige un quoi, une personne qui l'a ordonné, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans cette pièce et que vous voyez ces chaises toutes alignées comme ça, est-ce évidemment l'œuvre d'un être humain? Quelqu'un a organisé ça. Est-ce une chance que les chaises soient arrivées ainsi, et si vous les secouiez 1 million de fois, ce serait un désastre? Fondamentalement, il s'agit d'un argument d'ordre, car l'univers est un univers ayant bien plus d'ordre que cette pièce. Il doit donc y avoir un ordreur, quelqu'un qui commande ce genre de choses. En d'autres termes, cela n'arrive pas par chance, sinon, vous auriez un désordre chaotique, mais il n'y a pas de désordre chaotique. Cela conduit donc à ce qu'on appelle la conception intelligente. Au fait, y a-t-il différentes personnes qui ont des opinions différentes sur cette chose, le design intelligent? Encore une fois, je veux venir ici, y a-t-il différentes personnes sur ce campus qui ont des points de vue différents sur la conception intelligente? Certaines personnes disent, non, je ne crois pas au dessin intelligent. L'évolution est plutôt leur truc. D'autres personnes sont plus créationnistes, elles savent que Dieu a créé les choses. La conception intelligente dit quoi? Que l'univers est conçu, que l'univers a un designer. En passant, les gens qui ont développé cela, diraient les scientifiques, ces gens qui font du design intelligent sont une bande d'idiots, ce ne sont pas vraiment des scientifiques. Laissez-moi juste vous parler de William Dansky, ce n'est pas un vrai scientifique, il a juste, voyons, un doctorat en mathématiques de l'Université de Chicago. Oh oui, et j'ai oublié de le dire, il est également titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université de Chicago, un double doctorat. Alors c'est un vrai idiot, n'est-ce pas? Vous dites, c'est l'Université de Chicago, nous sommes des gens de Harvard ici. Je veux juste vous dire qu'il existe d'autres écoles décentes en dehors du Massachusetts. L'Université de Chicago est une école de haut niveau. Il a 2 doctorats et 1 en mathématiques. Une personne qui obtient un doctorat en mathématiques, ça dit quelque chose. Pensée grecque, oui. Sait-il certaines choses sur la science? La réponse est oui. Il fait partie des personnes à l'origine du design intelligent, et ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des tonnes de personnes qui soutiennent le design intelligent et qui sont des scientifiques de premier ordre. Alors faites attention à ceci, eh bien, les scientifiques ne soutiennent pas cela, c'est faux. Il y a des tonnes de scientifiques qui détiennent le dessin intelligent. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous réfléchissiez à certains de ces types de choses. Pouvons-nous prouver l'existence de Dieu? Non. Ces choses nous amènent-elles, lorsque nous voyons un ordre dans l'univers d'une ampleur telle que nous le voyons, à penser que quelqu'un a ordonné ce genre de choses? Je vous demande de regarder cette salle de classe, si vous veniez ici, ne supposeriez-vous pas que quelqu'un a mis ses chaises de cette façon? Cela ne s'est pas produit par le chaos ou par la chance. Donc tout ce que je dis, c'est que l'univers est d'un ordre de grandeur supérieur à la commande de ces chaises. Conférence W. Dr. Perry Phillips Big Bang et la création de l'univers 60-50-62-30. Dr. Perry Phillips, docteur en astrophysique de l'Université Cornell, est-ce correct? Docteur en astrophysique, Université Cornell. Il est marié au Dr. Hélène Phillips. Le Dr. Phillips va faire une conférence sur la théorie du Big Bang, lundi soir prochain à 7h, dans Genx 237. Je vous enverrai un email à ce sujet. Perry Phillips va discuter de la théorie du Big Bang et de la manière dont, selon lui, cela conduit à l'idée qu'il existe un Dieu. Scientifique de premier ordre, je connais très bien Perry Phillips. J'ai vécu avec Perry et Hélène, et nous avons vécu en couple en Israël pendant un an ensemble. Arrive-t-on vraiment à bien connaître une personne après avoir vécu ensemble ainsi pendant un an? C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux vous dire, juste entre nous, ici, le docteur Perry Phillips est l'un des hommes chrétiens les plus pieux que j'ai rencontrés dans ma vie et je le considère comme un ami cher depuis une trentaine d'années maintenant. Mais est-il également un scientifique de qualité? Le gars a un doctorat. En astrophysique, très brillant, très brillant aussi. Donc il fait ça lundi soir et c'est une conférence gratuite, 7h, Genx 237. Si vous vous êtes déjà posé des questions sur le Big Bang, c'est très bien. Sa conférence est mise en ligne sur notre site web. Nous avons encore une chose à faire ici et c'est de faire cette évaluation. Je vais donc distribuer ceci si je peux demander à quelqu'un de m'aider ici. Je vais vous donner cette pile, et je les distribuerai simplement là-bas. Transcrit par Ashley Holm. Brut édité par Ted Rildebrandt II. Montage final par Grasswood.